Chapitre 8.
Surgissant d'on ne sait où, au fond d'un passage, une odeur de café, de vrai café, pas de café de la victoire, flottait dehors, dans la rue. Winston s'arrêta machinalement. Pendant peut-être 2 secondes, il avait été replongé dans le monde à demi oublié de son enfance. Puis une porte claqua, étouffant l'odeur du café aussi abruptement que si cela avait été un bruit. Il avait marché plusieurs kilomètres sur les pavés, et son ulcère varicueux le lançait. C'était la seconde fois en 3 semaines qu'il manquait une soirée au centre communautaire, un acte imprudent, car vous pouviez être certain que le relevé de vos présences au centre était attentivement épluché. En principe, un membre du parti n'avait pas de temps libre et n'était jamais seul, sauf dans son lit. Il était entendu que quand il n'était pas en train de travailler, de manger ou de dormir, il devait prendre part à quelque récréation communautaire. Faire quoi que ce soit qui suggérait un goût pour la solitude, même se promener seul, était toujours légèrement dangereux. Il y avait un mot pour cela en 9 langues, « propre vie », qui signifiait individualisme et excentricité. Mais ce soir, comme il sortait du ministère, la douceur embaumée de l'air d'avril l'avait tenté. Le ciel était d'un bleu plus intense qu'il ne l'avait vu de toute l'année, et soudain, la perspective d'une longue soirée bruyante au centre, avec ses jeux ennuyeux et épuisants, ses lectures, sa camaraderie grinçante lubrifiée par le gin, lui avait paru intolérable. Sur une impulsion, il avait tourné le dos à l'arrêt de bus et marché dans le labyrinthe de Londres, d'abord vers le sud, puis vers l'est, puis vers le nord à nouveau, se perdant à travers des rues inconnues et se souciant à peine de la direction dans laquelle il allait.
« S'il y a de l'espoir, »
avait-il écrit dans le journal,
« il se trouve chez les prolétaires. »
Ces mots lui revenaient, ces mots qui énonçaient une vérité mystique et en même temps une absurdité substantielle. Il se trouvait dans la nébuleuse brune des bidonvilles qui s'étendait au nord et à l'est de ce qui avait été autrefois la gare Saint-Pancras. Il remontait une ruelle pavée, bordée de petites maisons à 2 étages aux portes défoncées, qui ouvraient directement sur la chaussée et qui faisaient étrangement penser à des trous de rats. Il y avait des flaques d'eau sale qui stagnaient çà et là entre les pavés. Dans les entrées obscures et dans les étroites allées latérales qui s'ouvraient de chaque côté, les gens fourmillaient dans des quantités incroyables, des jeunes filles en fleurs, aux lèvres violemment maquillées, des jeunes qui suivaient les filles et des femmes boursouflées qui se dandinaient, comme pour vous montrer ce à quoi les jeunes filles allaient ressembler d'ici 10 ans. Et de vieilles créatures courbées qui se traînaient sur leurs pieds affaissés, et des enfants loqueteux, nu-pieds, qui jouaient dans les flaques puis se regroupaient en réponse aux cris hargneux de leur mère. Environ 1/4 des fenêtres étaient cassées et remplacées par du carton. La plupart des gens ne prêtaient aucune attention à Winston. Certains le lorgnaient avec une sorte de curiosité prudente. 2 femmes monstrueuses, avec des bras à rouge brique repliés sur leur tablier, discutaient dans une entrée. Winston entendit des bribes de conversation quand il s'en approcha. « Oui, j'y ai dit, tout ça c'est très joli, j'y ai dit. Mais si tu serais à ma place, t'aurais fait pareil que moi. C'est facile de critiquer, j'y ai dit, mais t'as pas les mêmes problèmes que moi. »« Ah, » dit l'autre, « c'est exactement ça qu'il y a. » Les voix stridentes s'arrêtèrent brutalement. Les femmes observèrent Winston dans un silence hostile jusqu'à ce qu'il fût passé. Mais il ne s'agissait pas à proprement parler d'hostilité, simplement une sorte de méfiance, une crispation momentanée, comme à la vue d'un animal auquel on n'est pas habitué. Le bleu de travail du parti était certainement une denrée rare dans une telle rue. Il était vraiment imprudent d'être vu dans de tels endroits, à moins que vous ayez une affaire précise à y régler. Les patrouilleurs pouvaient vous arrêter s'ils tombaient sur vous.
« Puis-je voir vos papiers, camarade ? « Qu'est-ce que vous faites par ici ? À quelle heure avez-vous quitté le travail ? Est-ce votre itinéraire habituel pour rentrer chez vous ?»
Et ainsi de suite. Non qu'il y eût une règle interdisant de rentrer chez soi à pied par un chemin inhabituel, mais c'était assez pour attirer l'attention sur vous, si la police de la pensée venait à en être informée. Tout à coup, la rue entière s'agita. Il y eut des cris d'avertissement lancés de tous côtés. Des gens se terraient dans les entrées comme des lapins. Une jeune femme se pencha à l'extérieur d'une entrée, un peu devant Winston, attrapa, à l'aide d'un lasso formé par son tablier, un enfant minuscule qui jouait dans une flaque, et se renfonça à l'intérieur, le tout dans un mouvement unique. Au même instant, un homme qui portait un costume noir bouchonné, émergeant d'une allée latérale, courut vers Winston et lui cria en désignant le ciel au comble de l'excitation
« Cocotte minute ! Attention, Excellence ! Attention la tête ! Couchez-vous, vite !»
Cocotte minute était le surnom que, pour une raison inconnue, les prolétaires avaient donné aux roquettes. Winston se jeta immédiatement face contre terre. Les prolétaires voyaient presque toujours juste quand ils vous donnaient ce genre d'avertissement. Ils semblaient posséder une sorte d'instinct qui leur disait quelques secondes en avance qu'une roquette allait s'abattre, bien que les roquettes fussent censées dépasser la vitesse du son. Winston se protégea la tête avec ses bras. Il y eut un rugissement qui fit tanguer le sol. Une pluie d'objets légers s'abattit sur le dos de Winston. Quand il se releva, il découvrit qu'il était couvert des débris d'une vitre provenant de la fenêtre la plus proche. Il reprit sa marche. La bombe avait démoli un pâté de maison, 200 mètres plus haut dans la rue. Un noir panache de fumée s'élevait dans le ciel, au-dessus d'un nuage de poussière de plâtre qui entourait les ruines où une foule s'amassait déjà. Il y avait, gisant devant lui sur les pavés, un petit amas de plâtre qui portait en son milieu une rayure rouge sang. Quand il s'approcha, il vit qu'il s'agissait d'une main humaine, sectionnée au poignet. Privée de l'afflux de sang du corps, la main était si totalement blanche qu'elle ressemblait à un morceau de plâtre. Il repoussa la chose, avec son pied, dans le caniveau, puis, pour éviter la foule, prit une rue latérale sur sa droite. En 3 ou 4 minutes, il était sorti de la zone d'impact de la bombe, et le grouillement sordide de la vie dans les rues reprenait comme si de rien n'était. Il était presque 20:00, et les débits de boissons que les prolétaires fréquentaient, et qu'ils appelaient « pub », étaient remplis de consommateurs. De leurs portes battantes et crasseuses, qui ne cessaient de s'ouvrir et de se fermer, provenait une odeur d'urine, de sciure et de bière aigre. Dans un renfoncement, sous un porche, se tenaient 3 hommes, très rapprochés les uns des autres. Celui du milieu tenait un journal à moitié plié, que les autres regardaient par-dessus son épaule. Même avant d'être assez proche pour discerner l'expression de leur visage, Winston pouvait noter la concentration dans chaque ligne de leur corps. Ils étaient manifestement en train de découvrir une information très importante. Ils n'étaient plus qu'à quelques pas lorsque soudain le groupe se scinda et 2 des hommes entrèrent en conflit assez violemment. Pendant un moment, il sembla qu'ils allaient en venir aux mains.
« T'es pas foutu de comprendre ce que je dis. Je te dis qu'aucun numéro qui se finit par un 7 n'a jamais gagné depuis 14 mois. Si c'est arrivé. » Je te dis que non. Chez moi, les numéros gagnants, je les ai tous notés depuis 2 ans sur un bout de papier. Je les note à chaque fois, réglés comme une horloge. Et je te dis, il n'y a pas de numéro qui se termine par un 7 qui... S'il y en a un qui a gagné, je suis presque capable de te le donner entier, ce foutu numéro. Il se termine par 407. C'était en février, 2e semaine de février. Février de ta grand-mère. Je les ai tous, noir sur blanc. Et je te dis, aucun numéro... Oh, ça va !»
dit le 3e homme. Il parlait de la loterie. Winston se retourna au bout d'une 30aine de mètres. Ils étaient toujours en train de se disputer, avec des visages animés et passionnés. La loterie, avec ses gros lots astronomiques hebdomadaires, était le seul événement public que les prolétaires prenaient au sérieux. Sans doute, la loterie était-elle pour des millions de prolétaires la principale, sinon l'unique, raison de vivre. C'était leur délice, leur folie, leur opium, leur stimulant intellectuel. Quand il s'agissait de la loterie, même des gens quasiment analphabètes paraissaient capables de calculs compliqués et d'exploits stupéfiants au niveau de la mémoire. Il y avait des légions entières d'hommes qui gagnaient leur vie juste en vendant des astuces, des prévisions et des porte-bonheur. Winston n'avait rien à voir avec le fonctionnement de la loterie, qui était géré par le ministère de l'Abondance. Mais il était conscient, comme tous les membres du parti, sans exception, que les gains étaient en grande partie imaginaires. Seules de petites sommes étaient réellement versées, car les gagnants des gros lots étaient des personnes fictives. En l'absence de réelle communication entre une partie de l'Océanie et une autre, cela n'était pas difficile à arranger. Mais s'il restait de l'espoir, il se trouvait chez les prolétaires. Il fallait s'accrocher à cette idée. Quand vous l'exprimiez par des mots, cela sonnait comme une idée raisonnable. C'était quand vous regardiez les êtres humains qui battaient le pavé que cela devenait un acte de foi. La rue dans laquelle il avait tourné descendait vers le bas de la colline. Il avait le sentiment qu'il s'était déjà rendu dans ce quartier auparavant et qu'il y avait une artère majeure à proximité. Non loin, on entendait un tintamarre de cris. La rue fit un coude et se termina par une volée de marches menant à une allée en contrebas où quelques vendeurs à l'étalage proposaient des légumes à l'air fatigué. À ce moment, Winston reconnut les lieux. L'allée débouchait sur l'avenue principale et après le prochain virage, à environ 5 minutes, se trouvait la brocante où il avait acheté le livre aux pages blanches qui lui servait aujourd'hui de journal. Et dans une petite papeterie non loin de là, il avait acheté son porte-plume et sa bouteille d'encre. Il s'arrêta un instant en haut des marches. En face de lui, dans l'allée, il y avait un petit pub minable dont les vitres semblaient brisées alors qu'elles étaient seulement noires de poussière. Un très vieil homme, voûté mais actif, avec des moustaches blanches qui frétillaient en avant comme des antennes de crevettes, poussa le battant de la porte et entra. Comme Winston restait là à regarder, il lui vint à l'esprit que ce vieil homme, qui devait avoir au moins 80 ans, devait déjà être un homme d'âge mûr au moment de la Révolution. Lui, et une poignée d'autres comme lui, étaient les derniers liens qui existaient avec le monde disparu du capitalisme. Au parti même, il ne restait pas beaucoup de gens dont les idées avaient été formées avant la Révolution. La génération d'avant avait presque entièrement été balayée lors des grandes purges des années 50 et 60, et les rares survivants avaient depuis longtemps cédé à la terreur et intellectuellement rendu les armes. S'il y avait encore quelqu'un de vivant, capable de vous rendre compte à peu près fidèlement des conditions de vie de la première moitié du siècle, c'était un prolétaire. Soudain, le passage du livre d'histoire que Winston avait recopié dans son journal lui revint en mémoire et il fut pris d'une impulsion subite. Il allait pénétrer dans le pub, il allait engager la conversation avec ce vieil homme et lui poser des questions. Il lui dirait
« Racontez-moi la vie que vous aviez quand vous étiez enfant. Est-ce que c'était comme aujourd'hui ? Est-ce que les choses étaient mieux qu'aujourd'hui ou pire ?»
Pour éviter de se donner le temps de céder à la peur, il se hâta de descendre les marches et traversa la rue étroite. C'était de la folie, bien sûr. Comme toujours, il n'y avait pas de règles claires interdisant de parler à des prolétaires dans des pubs. Mais c'était une action beaucoup trop inhabituelle pour passer inaperçue. Si les patrouilleurs arrivaient, ils pourraient plaider une faiblesse soudaine, mais il était peu probable qu'on le crût. Il poussa la porte pour entrer, et une odeur nauséabonde de bière aigre le heurta de plein fouet. À son entrée, le brouhaha des voix se réduisit de moitié. Il pouvait sentir, derrière son dos, tous les regards fixés sur son bleu de travail. Une partie de fléchettes qui se disputait à l'autre bout de la pièce s'interrompit pendant une trentaine de secondes. Le vieil homme que Winston avait suivi était debout au bar et protestait contre le barman, un jeune homme massif, carré, doté d'un nez crochu et de bras énormes. Un rond de curieux, debout autour d'eux, leurs verres à la main, regardait la scène.
Est-ce que j'ai pas demandé poliment, peut-être ?
Dit le vieil homme, en redressant ses épaules comme pour se battre.
Et vous me dites qu'il n'y a pas un verre à pinte dans tout ce foutu bistrot ?
Et c'est quoi, nom de Dieu, une pinte ?
Dit le barman, penché en avant, le bout des doigts sur le comptoir.
Écoutez-le, le soi-disant barman, qui sait même pas ce que c'est une pinte. Eh bien, une pinte, c'est la moitié d'un quart. Et il y a 4 quarts dans le galon. La prochaine fois, je t'apprendrai le béaba. Jamais entendu parler,
dit laconiquement le barman.
Litre et demi-litre, c'est tout ce qu'on sert. Les verres sont sur l'étagère en face de vous. Je veux une pinte,
insista le vieil homme.
C'est pas compliqué de me faire couler une pinte. On n'avait pas tous ces foutus litres quand j'étais jeune homme.
Quand vous étiez jeune, vous viviez dans les arbres,
dit le barman en regardant les autres clients d'un air entendu. Il y eut des rires bruyants et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla se dissiper. Le visage hérissé de blanc du vieil homme avait rougi. Il se retourna, marmonnant, et se cogna contre Winston. Ce dernier le prit gentiment par le bras.
« Puis-je vous offrir un verre ?
dit-il.
Vous, vous êtes un gentleman,
dit l'autre, redressant ses épaules à nouveau. Il ne paraissait pas avoir remarqué le bleu de travail de Winston.
Une pinte,
ajouta-t-il avec agressivité au barman.
Une pinte de Wallop.
Le barman versa 2 demi-litres d'une bière brune dans des verres épais qu'il venait de rincer dans un baquet sous le comptoir. La bière était la seule boisson que vous pouviez trouver dans des pubs de prolétaires. Les prolétaires n'étaient pas censés boire du gin, bien que, dans la pratique, ils pussent s'en procurer assez facilement. La partie de fléchette battait à nouveau son plein, et la rangée d'hommes au comptoir s'était mis à parler de tickets de loterie. La présence de Winston était oubliée pour un moment. Il y avait une table de bois sous la fenêtre, où lui et le vieil homme pourraient parler sans crainte d'être entendus. C'était horriblement dangereux, mais au moins il n'y avait pas d'écrantelle dans la pièce, il s'en était assuré aussitôt qu'il était entré.
« L'aurait pu me donner une pinte, »
grogna le vieil homme en s'installant devant son verre.
« 1 demi-litre, c'est pas assez, ça cale pas. Et 1 litre entier, c'est trop. Ça pèse sur la vessie, sans parler du prix. »
« Vous avez dû voir de grands changements depuis votre jeunesse, »
dit timidement Winston. Les yeux bleu pâle du vieil homme allèrent du jeu de fléchettes au bar, puis du bar à la porte des toilettes, comme si les changements en question devaient avoir eu lieu à l'intérieur de la salle de bar.
« La bière était meilleure, »
dit-il finalement.
« Et moins chère. Quand j'étais jeune, la bière blonde, Wallop qu'on l'appelait, était à 4 pence la pinte. C'était avant la guerre, évidemment.
De quelle guerre parlez-vous ?
Demanda Winston.
Ah, c'est toutes les mêmes,
dit le vieil homme évasivement. Il prit son verre et ses épaules se redressèrent à nouveau.
Je vous souhaite une excellente santé.
Dans son cou décharné, la pomme d'Adam pointue fit un mouvement de va-et-vient étonnamment rapide et la bière disparut. Winston alla au bar et revint avec 2 autres demi-litres. Le vieil homme semblait avoir oublié ses préventions contre le fait de boire 1 litre entier.
« Vous êtes beaucoup plus âgé que moi, »
dit Winston.
« Vous deviez être un homme adulte au moment de ma naissance. Vous pouvez vous rappeler comment c'était dans les temps anciens, avant la Révolution. Nous ne pouvons que lire des choses là-dessus dans les livres, et ce qu'il y a dans les livres peut ne pas être vrai. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. » Les livres d'histoire disent que la vie avant la Révolution était complètement différente de ce qu'elle est maintenant, qu'il y avait une oppression terrible, de l'injustice, une misère noire comme on ne l'imagine pas, qu'ici à Londres, la grande majorité des gens n'avaient pas assez à manger, depuis le berceau jusqu'à la tombe, que la moitié d'entre eux n'avaient pas même de bottes à leurs pieds, qu'ils travaillaient 12 heures par jour, qu'ils n'allaient à l'école que jusqu'à 9 ans, qu'ils dormaient à 10 dans une seule pièce. Et qu'en même temps, il y avait toute une petite quantité de gens, quelques milliers à peine, qu'on appelait les capitalistes, qui étaient riches et puissants, qu'ils possédaient tout ce qu'il était possible de posséder, qu'ils vivaient dans de grandes et magnifiques maisons avec 30 domestiques, qu'ils se promenaient dans des voitures à moteur et des attelages à 4 chevaux, qu'ils buvaient du champagne, qu'ils portaient des chapeaux hautes formes.
Le vieil homme s'illumina soudain.
« Des hautes formes !»
dit-il.
« C'est drôle que vous en parliez. Ça m'est revenu pas plus tard qu'hier, je sais pas pourquoi. J'ai juste pensé, tiens, j'ai pas vu de haute forme depuis des lustres. Ils ont complètement disparu. La dernière fois que j'en ai porté un, c'était à l'enterrement de ma belle-sœur. Et c'était, je pourrais pas vous donner la date, mais ça doit bien faire 50 ans. Évidemment, je l'avais loué pour l'occasion, vous comprenez.
Les hautes formes, ce n'est pas le plus important,
dit Winston patiemment.
Ce qui est important, c'est que ces capitalistes, eux et une poignée d'avocats et de prêtres et autres qui gravitaient autour d'eux, étaient les seigneurs de la terre. Tout existait pour leur profit. Vous, les gens ordinaires, les travailleurs, vous étiez leurs esclaves. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de vous. Ils pouvaient vous envoyer au Canada comme du bétail. Ils pouvaient coucher avec vos filles s'ils en avaient envie. Ils pouvaient vous condamner à être fouetté avec une chose appelée un chat à 9 queues. Vous deviez retirer votre chapeau quand vous les croisiez, et tous les capitalistes se déplaçaient avec une bande de laquais qui...
Le vieil homme s'illumina à nouveau.
« Des laquais !»
dit-il.
« Par exemple, voilà un mot que j'ai pas entendu depuis bien longtemps. Ce client-là me ramène en arrière, ça oui. Je me souviens que, oh, il y a belle lurette, j'allais des fois à Hyde Park le dimanche après-midi pour écouter les gars faire leur discours. L'armée du salut, les catholiques romains, les juifs, les indiens, toutes sortes de gars. Et il y en avait un, bon, je pourrais pas vous donner son nom, mais c'était un sacré bon orateur, celui-là. Il n'y allait pas par quatre chemins. Laquais, il disait, laquais de la bourgeoisie, larbin de la classe dominante, parasite, ça c'en était un autre, et hyène, il les traitait de hyène. Évidemment, il voulait parler du parti travailliste, vous comprenez.
Winston avait l'impression qu'il discutait à contresens.
Ce que je voulais vraiment savoir, c'est ceci,
dit-il.
Avez-vous le sentiment d'avoir plus de liberté maintenant que vous n'en aviez à l'époque? Êtes-vous traité plus humainement? Dans les temps anciens, les gens riches, les gens de la haute. La maison des seigneurs,
articula le vieil homme dans une réminiscence.
La maison des seigneurs, si vous voulez. Ce que je demande, c'est est-ce que ces gens étaient capables de vous traiter comme un inférieur, juste parce qu'ils étaient riches et vous, pauvres? Est-ce vrai, par exemple, que vous deviez les appeler sœurs et retirer votre chapeau quand vous les croisiez?
Le vieil homme parut s'abîmer dans sa réflexion. Il but environ le quart de sa bière avant de répondre.
« Oui,
dit-il.
Isémé comporte la main à son chapeau en les voyant. C'était un genre de geste de respect. J'étais pas spécialement d'accord, mais je l'ai fait bien souvent. C'était de mise, pour ainsi dire. Et était-il habituel? Je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu dans les livres d'histoire. Était-il habituel pour ces gens et leurs serviteurs de vous pousser du trottoir vers le caniveau? Il y en a un qui m'a poussé une fois,
dit le vieil homme.
Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une nuit de régate. Qu'est-ce qu'ils étaient bagarreurs, les nuits de régate? Et voilà-t-il pas que je me cogne contre un jeune type sur Shaftesbury Avenue. Un vrai gentleman que c'était, chemise habillée, haut de forme, par-dessus noir. Et il était en train de zigzaguer sur le trottoir, et je lui suis rentré dedans sans le vouloir. Il a dit « Pourquoi ne regardez-vous pas où vous marchez ?» J'ai dit « Vous croyez que ce foutu trottoir vous appartient ?» Il a dit « Je vous arrache la tête si vous vous montrez insolent. » J'ai dit « Vous êtes saoul et je vais vous charger dans moins d'une minute, j'ai dit. » Et croyez-moi si vous voulez, il a mis sa main sur ma poitrine et il m'a quasiment poussé sous les roues d'un bus. Bon, j'étais jeune à l'époque et j'étais sur le point de lui en mettre une, seulement...
Un sentiment d'impuissance s'empara de Winston. La mémoire du vieil homme n'était rien qu'un fatras de détails. On aurait pu l'interroger toute une journée sans en tirer une seule véritable information. Les histoires du parti pouvaient toujours être vraies d'une certaine manière. Elles pouvaient même être complètement exactes. Il fit une dernière tentative.
« Peut-être que je n'ai pas été assez clair,
dit-il.
Ce que j'essaie de dire est ceci. Vous avez vécu très longtemps. Vous aviez vécu la moitié de votre vie avant la Révolution. En 1925, par exemple, vous étiez déjà un adulte. Diriez-vous, d'après vos souvenirs, que la vie en 1925 était meilleure que maintenant ou pire? Si on vous donnait le choix, préféreriez-vous vivre à cette époque ou maintenant?
Le vieil homme médita un moment, les yeux posés sur les fléchettes. Il termina sa bière, plus lentement que la fois précédente. Quand il parla, ce fut avec un air philosophe et tolérant, comme si la bière l'avait adouci.
Je sais ce que vous voulez que je dise,
dit-il.
Vous vous attendez à ce que je dise que j'aimerais mieux être jeune à nouveau. C'est ce que diraient beaucoup de gens si vous leur demandiez. Vous avez la santé et la force quand vous êtes jeune. Quand vous arrivez à mon âge, vous n'êtes jamais très en forme. J'ai une vilaine douleur aux pieds et ma vessie me joue de drôles de tours. 6 à 7 fois par nuit, je me relève. Mais d'un autre côté, il y a de grands avantages à être vieux. Vous n'avez plus les mêmes soucis, pas d'embrouille avec les femmes, et ça, c'est quelque chose. J'ai plus touché une femme depuis près de 30 ans, si vous pouvez le croire. Et qui plus est, je n'en ai pas eu envie.
Winston se rassit contre le rebord de la fenêtre. Ça ne servait à rien de continuer. Il était sur le point d'acheter de nouvelles bières quand le vieil homme se leva brusquement et se dépêcha vers l'urinoir puant sur le côté de la pièce. Le demi supplémentaire faisait déjà son effet sur lui. Winston resta assis une minute ou deux, contemplant son verre vide, et remarqua à peine quand ses pieds le transportèrent dehors, dans la rue. Dans 20 ans tout au plus, songea-t-il, la simple et immense question « la vie était-elle meilleure avant la Révolution que maintenant ?» n'aurait plus jamais aucune réponse possible. Mais en fait, c'était déjà le cas maintenant, puisque les survivants éparpillés de l'Ancien Monde étaient incapables de comparer deux époques entre elles. Ils se rappelaient un million de choses inutiles, une querelle avec un collègue, la recherche d'une pompe à vélo perdue, l'expression du visage d'une sœur morte depuis longtemps, les tourbillons de poussière soulevés par le vent d'un matin ancien de 70 ans. Mais tous les faits importants étaient en dehors de leur champ de vision. Ils étaient comme des fourmis qui peuvent voir les petits objets, mais pas les grands. Et quand la mémoire défaillait et que les archives étaient falsifiées, quand cela arrivait, on était obligé d'accepter les affirmations du parti selon lesquelles il avait amélioré les conditions de la vie humaine parce qu'il n'existait et n'existerait plus jamais aucun étalon auquel cette affirmation pouvait être jaugée. À cet instant, le cours de ses pensées s'arrêta brusquement. Il fit halte et regarda en l'air. Il se trouvait dans une rue étroite, avec quelques échoppes sombres au milieu de maisons d'habitation. Immédiatement au-dessus de sa tête pendaient 3 boules métalliques décolorées qui semblaient avoir été dorées dans des jours meilleurs. Il avait l'impression de reconnaître l'endroit. Bien sûr, il se tenait à l'extérieur de la brocante où il avait acheté son journal. Il eut au cœur un pincement de peur. Acheter le livre, pour commencer, avait été très téméraire, et il s'était juré de ne jamais plus s'approcher de ce lieu. Et pourtant, au moment où il avait laissé divaguer son esprit, ses pieds, indépendants, l'avaient ramené là. C'était justement contre des impulsions suicidaires de ce genre qu'il avait espéré pouvoir se prémunir en commençant le journal. Il remarqua en même temps que, bien qu'il fût presque 21:00, la boutique était toujours ouverte. Avec le sentiment qu'il serait moins visible à l'intérieur qu'en train de traîner sur le trottoir, il franchit le seuil. Si on le questionnait, il pourrait prétendre, de manière assez plausible, qu'il était en quête de lame de rasoir. Le propriétaire venait juste d'allumer une lanterne à huile qui dégageait une odeur impure mais amicale. C'était un homme qui pouvait avoir la 60aine, frêle et voûté, avec un long nez bienveillant et des yeux doux, déformé par d'épaisses lunettes. Ses cheveux étaient presque blancs, mais ses sourcils broussailleux étaient encore noirs. Ses lunettes, ses mouvements doux et méticuleux, et le fait qu'il portât une vieille veste de velours noir, lui donnaient un vague air d'intellectualité, comme s'il était une sorte d'homme de lettres ou peut-être un musicien. Sa voix était douce, comme délavée, et son accent était moins vulgaire que la majorité des prolétaires.
« Je vous ai reconnu sur le trottoir, »
dit-il immédiatement.
« Vous êtes le gentleman qui m'a acheté l'album de souvenirs pour dame. C'était un beau papier, ça. Crémeux, comme on disait dans le temps. Du papier comme ça, on n'en fait plus depuis, oh, je dirais 50 ans. »
Il regarda Winston par-dessus le haut de ses lunettes.
« Y a-t-il quelque chose en particulier que je puisse faire pour vous, ou vous vouliez juste jeter un coup d'œil ?»« Je passais. »
dit Winston évasivement.
« J'ai seulement regardé la vitrine. Je ne veux rien de particulier. »« Ce n'est pas plus mal, »
dit l'autre,
« car je ne pense pas que j'aurais pu vous satisfaire. »
Il fit un geste d'excuse avec sa main à la paume douce.
« Vous voyez comment c'est, une boutique vide pour tout dire. Entre vous et moi, le commerce d'antiquités est à peu près fini. Il n'y a plus de demande et plus de stock non plus. » Meubles, porcelaine, verre, tout s'est cassé petit à petit. Et bien sûr, les choses en métal ont pour la plupart été fondues. Je n'ai pas vu un bougeoir en laiton depuis des années.
La boutique minuscule était si pleine en réalité que c'en était inconfortable, mais il n'y avait pratiquement rien qui eût la moindre valeur. L'espace au sol était très réduit, car contre tous les murs étaient empilés d'innombrables cadres de tableaux poussiéreux. Sur la fenêtre, il y avait des plateaux, des crous et de boulons, des ciseaux usés, des couteaux de poche avec la lame cassée, des montres ternies qui ne prétendaient même plus fonctionner, et d'autres déchets divers. Sur une petite table, dans un coin, il y avait un bric-à-brac de tabatières laquées, de broches d'agate et autres choses du même genre, qui seules paraissaient pouvoir contenir quelque chose d'intéressant. Comme Winston s'en approchait, son regard fut attiré par une chose ronde et lisse qui brillait doucement dans la lumière de la lampe, et il s'en saisit. C'était un lourd bloc de verre, courbé d'un côté et plat de l'autre, formant presque une demi-sphère. La couleur et la texture du verre rappelaient la douceur particulière de l'eau de pluie. En son centre, agrandi par la surface convexe, il y avait un étrange objet rose, plein de circonvolutions, qui faisait penser à une rose ou à une anémone de mer.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Winston, fasciné.
« C'est du corail, ça, »
dit le vieil homme.
« Ça doit venir de l'océan Indien. Ça se faisait de l'enchâsser dans du verre. Ça n'a pas moins d'un siècle, peut-être plus d'après son allure. C'est un bel objet, »
dit Winston.
« C'est un bel objet, »
dit l'autre d'un air de connaisseur.
« Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient de cet avis de nos jours. »
Il toussa.
« Maintenant, si par hasard vous aviez envie de l'acheter, ça vous coûterait 4 $. Je me souviens d'un temps où un truc comme ça allait chercher dans les 8 livres. Et 8 livres, c'était... Bah, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était beaucoup d'argent. » Mais qui se soucie des antiquités véritables comme ça de nos jours, alors qu'il n'y en a presque plus ?
Winston paya immédiatement les 4 $ et glissa l'objet convoité dans sa poche. Ce qui exerçait sur lui ce charme puissant, ce n'était pas tant sa beauté que son air d'appartenir à une époque totalement différente de l'époque présente. Le verre, doux et pareil à de l'eau de pluie, n'était comme aucun autre verre qu'il eût déjà vu. L'objet était doublement fascinant, à cause de son apparente inutilité, bien qu'il devinât qu'il avait dû être fabriqué pour être un presse-papier. C'était très lourd dans sa poche, mais heureusement, cela ne faisait pas de bosse trop visible. C'était un objet étrange, et même un objet compromettant pour un membre du parti. Toutes les choses anciennes, et plus généralement toutes les choses belles, étaient toujours vaguement suspectes. Le vieil homme était devenu notablement plus chaleureux après avoir reçu ses 4 $, et Winston se rendit compte qu'il en aurait accepté 3, et même 2.
« Il y a une autre pièce en haut, si ça vous intéresse de regarder, »
dit-il.
« Il n'y a pas grand-chose, juste quelques articles. Nous emmènerons de la lumière si nous allons là-haut. »
Il alluma une autre lampe, et, le dos courbé, il ouvrit lentement la voie, monta les escaliers raides et usés, traversa un minuscule couloir, et entra dans une pièce qui ne donnait pas sur la rue, mais sur une cour pavée et une forêt de cheminées. Winston remarqua que la chambre était toujours arrangée comme pour y vivre. Il y avait un bout de tapis par terre, un ou deux cadres au mur, et un fauteuil profond et crasseux disposé en face de l'âtre. Une pendule à l'ancienne, avec un cadran de 12 heures, faisait entendre son tic-tac sur le manteau de la cheminée. Sous la fenêtre, occupant près d'un quart de la pièce, était un énorme lit, toujours garni d'un matelas.
« On a vécu là jusqu'à la mort de ma femme, »
dit le vieil homme comme pour s'excuser.
« Je vends les meubles petit à petit. Là, vous avez un beau lit en acajou. Enfin, ce pourrait être un beau lit si on arrivait à en faire partir les punaises. Mais je dois dire qu'il est assez lourd. »
Il tenait haut la lanterne, de manière à illuminer toute la chambre, et dans cette chaude et faible lumière, l'endroit paraissait curieusement accueillant. Il vint à l'esprit de Winston qu'il serait sans doute assez facile de louer cette chambre pour quelques dollars la semaine, s'il était prêt à prendre ce risque. C'était une idée folle, impossible, à abandonner aussitôt qu'elle vous traversait l'esprit. Mais la chambre avait éveillé en lui une sorte de nostalgie, une sorte de souvenir ancestral. Il lui semblait connaître exactement l'impression que cela faisait de s'asseoir dans une chambre comme celle-ci, dans un fauteuil, près d'un feu, avec vos pieds contre la grille et une bouilloire sur la plaque, complètement seul, complètement en sécurité, avec personne pour vous regarder, aucune voix pour vous poursuivre, aucun son, excepté le chant de la bouilloire et le tic-tac amical de l'horloge.
« Il n'y a pas d'écran tel. »
ne put-il s'empêcher de murmurer.
« Ah !»
dit le vieil homme.
« Je n'ai jamais eu de truc comme ça, c'est trop cher. Et je n'ai jamais éprouvé le besoin d'en avoir, de toute façon. Et ça, c'est une belle table à rallonge, dans le coin, ici. Évidemment, si vous vouliez utiliser les rallonges, il faudrait mettre des charnières neuves. »
Il y avait une petite bibliothèque à l'autre coin, et Winston s'était déjà déplacé dans cette direction. Elle ne contenait qu'un bric-à-brac sans intérêt. La traque et la destruction des livres avaient été effectuées aussi systématiquement dans les quartiers prolétaires que partout ailleurs. Il était très peu probable qu'il existât nulle part en Océanie un exemplaire d'un livre imprimé avant 1960. Le vieil homme, qui portait toujours la lampe, se tenait en face d'une image dans un cadre en bois de rose qui était accroché de l'autre côté de la cheminée, à l'opposé du lit.
« Si par hasard vous êtes un tant soit peu intéressé par les vieilles affiches... »
commença-t-il précautionneusement. Winston s'approcha pour examiner l'image. C'était une gravure sur métal, représentant un bâtiment ovale pourvu de fenêtres rectangulaires et d'une petite tour sur le devant. Il y avait une balustrade qui entourait le bâtiment, et, à l'arrière, se trouvait quelque chose qui semblait être une statue. Winston le regarda quelques minutes. Cela lui semblait vaguement familier, bien qu'il ne se rappelât pas la statue.
« Le cadre est fixé au mur, »
dit le vieil homme.
« Mais je pourrais le dévisser pour vous, pour sûr. » « Je connais ce bâtiment, »
dit enfin Winston.
« C'est une ruine maintenant. C'est au milieu de la rue qui borde le palais de justice. » « Exact. À l'extérieur de la cour de justice, ça a été bombardé en... Oh, il y a un tas d'années. C'était une église auparavant, Saint-Clément d'Haines qu'elle s'appelait. »
Il sourit, en manière d'excuse, comme s'il était conscient de dire quelque chose d'un peu ridicule, et ajouta
« Orange et piment, disent les cloches de Saint-Clément. Qu'est-ce que vous dites ?»« Oh, orange et piment, disent les cloches de Saint-Clément. C'était une comptine quand j'étais petit garçon. Je ne me souviens pas de ce qui vient juste après, mais je sais comment ça finit. Et voici une bougie pour éclairer ton lit, et voici un hachoir pour te couper la tête. C'était une sorte de danse. » Il se tenait les mains pour que vous passiez au-dessous, et quand on arrivait à « Et voici un hachoir pour te couper la tête », ils faisaient descendre leurs bras et vous attraper. C'était rien que des noms d'églises. Toutes les églises de Londres y figuraient, toutes les principales du moins.
Winston se demanda vaguement de quel siècle datait cette église. Il était toujours difficile de déterminer l'âge d'un bâtiment de Londres. Tout ce qui était massif et impressionnant, et d'apparence suffisamment moderne, avait été prétendument construit après la Révolution, tandis que tout ce qui datait manifestement d'un temps plus ancien était assigné à une période obscure nommée Moyen-Âge. Les siècles du capitalisme étaient réputés pour n'avoir produit aucun bâtiment de valeur. Il était devenu aussi impossible d'apprendre l'histoire par l'architecture que par les livres. Les statues, les inscriptions, les plaques commémoratives, les noms de rues, tout ce qui aurait pu jeter une lumière sur le passé avait été systématiquement changé.
« Je ne savais pas que cela avait été une église, »
dit-il.
« Il y en a plein qui restent, en fait, »
dit le vieil homme.
« Bien qu'elles servent aujourd'hui à d'autres usages. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc après la comptine ? Ah, ça y est, orange et piment, disent les cloches de Saint-Clément. « Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. Ah, je ne peux pas aller plus loin. » Les florins, c'était des petites pièces de monnaie, ça ressemblait à un cent. « Où se trouvait Saint-Martin ?»
demanda Winston.
« Saint-Martin, elle est encore debout, dans Victoria Square, à côté de la galerie de peinture. Un bâtiment avec un genre de porche triangulaire et des colonnes devant et une grande volée de marches. »
Winston connaissait très bien l'endroit. C'était un musée utilisé par la propagande pour des expositions diverses, des modèles réduits de bombes et de forteresses flottantes, des tableaux de cire représentant les atrocités commises par l'ennemi et autre chose du même ordre.
« Saint-Martin-des-Champs, que ça s'appelait, »
ajouta le vieil homme.
« Bien que je ne me souvienne d'aucun champ dans les environs. »
Winston n'acheta pas le tableau. Cela aurait été une acquisition encore plus incongrue que celle du presse-papier de verre, et impossible à ramener à la maison, à moins de le retirer de son cadre. Mais il s'attarda encore quelques minutes à bavarder avec le vieil homme, dont le nom, il le découvrit, n'était pas Weeks, comme on aurait pu le penser d'après l'inscription de l'enseigne, mais Charrington. Mr. Charrington, semblait-il, était un veuf de 63 ans, et il avait habité cette boutique pendant 30 ans. Durant tout ce temps, il avait eu l'intention de changer le nom inscrit au-dessus de sa vitrine, mais il n'avait jamais réellement mis cette intention à exécution. Alors même qu'il bavardait, les bribes de la comptine continuaient à trotter dans la tête de Winston.
« Orange et piment, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. »
C'était curieux, mais à force de répéter cela, vous aviez réellement l'impression d'entendre les cloches d'un Londres perdu, qui existait encore quelque part, déguisé et oublié. D'un clocher fantomatique à l'autre, il lui semblait entendre les cloches carillonner. Et pourtant, aussi loin qu'il s'en souvienne, il n'avait jamais entendu dans sa vie réelle le son des cloches d'une église. Il prit congé de Mr. Charrington et descendit seul l'escalier, de façon à ne pas laisser le vieil homme le voir prendre des repères pour retrouver la rue lorsqu'il sortirait. Il avait déjà pris sa décision. Après un intervalle convenable, disons 1 mois, il prendrait le risque de revenir une nouvelle fois à la boutique. Ce n'était peut-être pas plus dangereux que de rater une soirée au centre. La véritable folie avait été de revenir ici la première fois, après avoir acheté le journal et sans savoir si le propriétaire de la boutique était digne de confiance. De toute façon... Oui, pensa-t-il encore, il reviendrait. Il achèterait d'autres beaux objets inutiles dans ce bric-à-brac. Il achèterait la gravure de Saint Clement Danes, l'enlèverait de son cadre et la ramènerait à la maison, cachée dans la veste de son bleu de travail. Il parviendrait à extraire le reste de la comptine de la mémoire de Mr. Charrington. Et même, le projet insensé de louer la chambre du haut lui vint à nouveau à l'esprit. Pendant environ 5 secondes, l'exaltation le rendit imprudent, et il déboucha de la boutique sur le trottoir sans même un regard préliminaire par la fenêtre. Il avait même commencé à fredonner sur une mélodie improvisée.
« Oranger, piment, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. »
Soudain, son cœur se figea et ses entrailles se liquéfièrent. Une silhouette en bleu de travail se dirigeait vers lui sur le trottoir, à 10 mètres à peine. C'était la fille du département des fictions, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'eut aucun mal à la reconnaître. Elle le regarda droit dans les yeux, puis le dépassa rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston fut trop paralysé pour bouger. Puis il tourna à droite et s'éloigna à pas lourds, sans se rendre compte sur le moment qu'il s'engageait dans la mauvaise direction. Vaille que vaille, une question au moins était réglée. Il n'y avait plus de doute maintenant. La fille l'espionnait. Elle avait dû le suivre ici, car il n'était pas crédible qu'elle se trouvât par pur hasard, le même soir que lui, dans la même obscure ruelle que lui, à des kilomètres de distance de tout quartier habité par les membres du parti. C'était une coïncidence trop énorme. Qu'elle fût réellement un agent de la police de la pensée, ou seulement une espionne amatrice, mue par un excès de zèle, cela importait peu. Le simple fait qu'elle le surveille était suffisant. Elle l'avait probablement vu aussi à l'intérieur du pub. Marcher représentait un effort. Le bloc de verre dans sa poche cognait sa cuisse à chaque pas, et il était tenté de le sortir de sa poche et de le jeter. Le pire était sa douleur au ventre. Pendant 2 minutes, il eut le sentiment qu'il allait mourir s'il ne trouvait pas des toilettes bientôt. Mais il n'y avait pas de toilettes publiques dans un quartier comme celui-ci. Puis le spasme passa, cédant le pas à une douleur plus sourde. La rue était une impasse. Winston s'arrêta, resta quelques secondes à se demander quoi faire, puis fit demi-tour et revint sur ses pas. Ce faisant, il se dit qu'il n'avait croisé la fille que 3 minutes auparavant, et qu'en courant, Il était probablement capable de la rattraper. Il pourrait la suivre jusqu'à un lieu désert et lui écraser la tête avec un pavé. Le presse-papier en verre dans sa poche était assez lourd pour faire l'affaire. Mais il abandonna immédiatement cette idée, car la seule pensée de faire un effort physique lui était intolérable. Il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas porter un coup. De plus, elle était jeune et vigoureuse, et elle se défendrait. Il pensa aussi à se hâter d'aller au centre communautaire et à y demeurer jusqu'à la fermeture, afin d'établir un alibi partiel pour sa soirée. Mais cela aussi était impossible. Une lassitude mortelle avait pris possession de lui. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer à la maison au plus vite, s'asseoir et rester tranquille. Il était plus de 22:00 quand il rentra à l'appartement. Les lumières ne seraient pas coupées avant 23:30. Il alla à la cuisine et avala près d'une tasse entière de gin de la Victoire. Puis il s'assit à la table de l'alcôve et prit le journal dans le tiroir. Mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Une voix féminine trompettait depuis l'écrantelle une chanson patriotique. Il resta à regarder la couverture marbrée du livre, essayant sans succès de faire disparaître la voix de sa conscience. C'était la nuit qu'il venait vous prendre, toujours la nuit. La meilleure chose à faire, c'était de vous tuer vous-même, avant qu'il ne vous attrape. Il était sûr que certaines personnes le faisaient. De nombreuses disparitions étaient en réalité des suicides. Mais il fallait un courage désespéré pour se tuer, dans un monde où les armes à feu, ainsi que tous les poisons sûrs et rapides, étaient impossibles à se procurer. Il songea avec une sorte d'incrédulité à l'inutilité biologique de la douleur et de la peur, la traîtrise du corps humain qui se figeait toujours dans l'inertie au moment précis où on avait besoin d'un effort particulier. Il aurait pu réduire au silence la fille aux cheveux noirs, s'il avait été capable de réagir assez vite. Mais c'était justement l'intensité du danger qui lui avait fait perdre ses moyens. Il était frappant de constater que dans les moments de crise, on ne se battait jamais contre un ennemi extérieur, mais toujours contre son propre corps. Même maintenant, malgré le djinn, la douleur sourde à son ventre l'empêchait de penser de manière suivie. Et il en allait de même, il s'en rendait compte, dans toutes les situations qui paraissaient héroïques ou tragiques. Sur le champ de bataille, dans la salle de torture, sur un bateau en plein naufrage, les problèmes pour lesquels vous vous battez sont toujours oubliés, au profit du corps, qui se dilate jusqu'à remplir l'univers entier. Et même quand vous n'êtes pas paralysé par la peur ou en train de hurler de douleur, la vie est un combat de chaque instant contre la faim, ou le froid, ou le manque de sommeil, contre une brûlure d'estomac ou une rage de dents. Il ouvrit le journal. Il était important d'écrire quelque chose. La femme sur l'écrantelle avait commencé une nouvelle chanson. Sa voix semblait s'accrocher à son cerveau comme des éclats de verre. Il essaya de penser à O'Brien, pour qui il écrivait son journal, ou plutôt à qui il le destinait. Mais à la place, il commença à songer aux choses qui lui arriveraient, après que la police de la pensée l'aurait emmené. Cela n'aurait pas été aussi grave s'il vous avait tué tout de suite. Être tué, c'est ce à quoi on s'attendait. Mais avant la mort, personne ne parlait de telle chose, et pourtant tout le monde le savait. Il y avait le rituel de la confession qu'il fallait traverser, la reptation, les hurlements de supplication, le craquement des os brisés, les dents éclatées et les touffes de cheveux sanglants. Pourquoi était-il nécessaire d'endurer cette douleur, puisque de toute façon la fin était la même? Pourquoi était-il impossible de faire une coupe de quelques jours ou de quelques semaines dans votre vie? Personne n'échappait jamais à la surveillance, et personne ne manquait jamais d'avouer. Une fois que vous aviez succombé au crime de pensée, il devenait certain qu'à une certaine date, vous seriez mort. Pourquoi alors cette horreur, qui ne changeait rien, était-elle scellée à votre futur? Il essaya, avec un peu plus de succès cette fois, de convoquer l'image d'O'Brien.
Nous nous retrouverons là où il n'y a pas de ténèbres,
lui avait dit O'Brien. Il savait ce que cela voulait dire, ou du moins, il pensait le savoir. Le lieu où il n'y avait pas de ténèbres était le futur imaginé, que personne ne verrait jamais. mais qui pouvait se dévoiler par une prescience mystique. Mais la voix harcelante de l'écrantèle à ses oreilles l'empêchait de poursuivre le cours de sa pensée. Il mit une cigarette dans sa bouche. La moitié du tabac tomba aussitôt sur sa langue, en une poussière amère qu'il était difficile de recracher. Le visage de Big Brother se répandit dans son esprit, remplaçant celui d'O'Brien. Exactement comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, il sortit une pièce de sa poche et la regarda. Le visage le fixait. Lourd, calme, protecteur. Mais quel genre de sourire se cachait-il derrière la moustache sombre ? Comme un glas de plomb, les mots lui revinrent.
La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance est une force. Fin de la première partie.